сожалению,
j'ai toujours dit
que,
à titre individuel, à titre personnel, j'admire. Ou bien je plains énormément ce pauvre et magnifique petit homme rouge. Mais c'est un homme qui se caractérise par énormément de contradictions. À la fois, c'est lui qui a vaincu Hitler en 1945, et à la fois, en 1937, c'est lui qui a écrit des dénonciations par milliers pour dénoncer ses propres voisins. Et aujourd'hui, il continue à dénoncer, il continue à servir Poutine, et c'est toute la tristesse de cette situation. Je voudrais compléter en disant que, finalement, pour cet homme rouge, la vie n'a pas de valeur. La vie d'une personne n'a pas de valeur. Tout d'abord, toute cette vie était consacrée à maîtriser, à découvrir cet énorme espace, cet énorme territoire qu'est la Russie. Puis, il a été jeté en pâture à des grandes idées, telles que la révolution mondiale hier, telles que l'idée de reconstruire le monde russe aujourd'hui. Finalement, la vie de cet homme rouge, elle est toujours jetée au pied d'une idée.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Née en 1948, Svetlana Alexievitch a grandi dans une foi communiste qui paraissait alors inébranlable, celle de ses parents enseignants, certains de vivre dans le meilleur pays du monde. Devenue journaliste, elle publie son premier livre en 1985, des témoignages de femmes combattantes durant la Seconde Guerre mondiale, et tout de suite, elle est accusée de traîtrise et d'antipatriotisme. Dorénavant, Svetlana Alexievitch consacrera sa vie courageuse et sa plume somptueuse au recueil de récits de vie de ses compatriotes à travers l'immense empire soviétique, y compris après la chute de l'URSS. Ses livres sur la guerre d'Afghanistan, la catastrophe de Tchernobyl, puis son œuvre majeure, La fin de l'homme rouge, paru chez Actes Sud en 2014, lui ont valu bien des ennuis dans son pays, et aussi le prix Nobel de littérature en 2015. Emmanuel Mérieux adapte pour la scène depuis 10 ans des livres dans lesquels il trouve des récits puissants qui lui permettront de donner à ses acteurs des monologues, le plus souvent délivrés sans artifice, face publique et qui scotchent littéralement les spectateurs, quasi en apnée jusqu'au dernier mot. Il y a eu « De beaux lendemains » de Russell Banks en 2011, « Mon traître » de Serge Chalandon en 2013 et en 2018 « Les naufragés » de Patrick Declercq et puis « La fin de l'homme rouge » de Svetlana Alexievitch qui sont tous deux en ce moment repris au Bouffe du Nord avant une tournée en France jusqu'en janvier 2020. De la cinquantaine de récits et portraits que l'auteur ukrainienne a réalisés en 40 années d'enquête, Emmanuel Mérieux a tiré 7 monologues bouleversants sidérant pour cet acteur exceptionnel, Anouk Grimbert, Evelyne Didi, Maude Wheeler, Jérôme Kircher, André Wilms, Stéphane Balmino, Xavier Gallet. Il faut absolument aller les voir et il faut absolument lire Alexievitch. Bonsoir Emmanuel Mérieux.
Bonsoir.
Vous avez l'habitude, je le disais, d'adapter des textes littéraires qui vous permettent d'avoir des monologues pour vos acteurs. Mais ce défi que vous vous êtes lancé avec l'adaptation d'un certain nombre de témoignages recueillis par Svetlana Alexievitch, c'est un défi encore plus extrême que les précédents parce que 40 ans d'enquête, des témoignages qui reviennent à 10 ans, 20 ans d'intervalle avec les mêmes personnages. Comment est-ce que vous avez fait pour choisir ces 7-là? Et puis quand on sait que vous les réécrivez, comment vous avez fait pour réécrire tout en gardant la voix d'Alexievitch?
C'est la question de l'adaptation à la scène. C'est pas un copier-coller. C'est pas un montage. C'est pas vrai. C'est comparable au travail que fait un scénariste pour le cinéma. Il faut tout reconstruire. Avec La fin de l'homme rouge, c'était effectivement un travail titanesque. Ça l'était déjà avec Serge Chalandon, dont j'ai adapté 2 romans. Mon traître, Retour à Killbeck, c'est 120 000 mots. Moi, je donne à écouter 5 500 mots. Voilà, tout simplement. Et c'est pas une compression. C'est pas comme une voiture à la casse. On peut pas en faire un résumé. On peut pas en faire une simple compression.
Non, puis surtout le rythme est très différent. On le sait à la radio, le rythme de la voix, c'est pas celui de l'écriture, pas du tout.
Il y a ces deux choses-là. Il y a l'histoire, la structure de l'histoire. Il faut la reconstruire complètement. Et ensuite, il y a les mots. Donc le rythme, la respiration, la syntaxe, la texture des mots. Il n'y a pas un mot en fait qui est tel quel dans le roman. Il n'y a pas un mot dit par mes acteurs qui est tel quel dans les romans que j'adapte. Il faut déjà proposer aux acteurs une partition d'émotion qui soit une belle matière pour eux. Ces mots-là, ils n'ont pas été écrits pour être écoutés. Ils n'ont pas été écrits pour être dits. Ils ont été écrits pour être lus, au sens lu intérieurement. Donc effectivement, il y a passage de l'écrit à l'oral. Donc il y a un travail sur la langue, bien sûr, il y a un travail sur le rythme, sur la respiration. Mais c'est finalement le plus facile. Le plus difficile, c'est le travail sur la structure. Voilà, c'est reconstruire une histoire. Parce qu'on peut pas raconter la même histoire en 120 000 mots et en 5 500 mots. Et là, il y a une part d'interprétation personnelle. Se faire un chemin personnel dans l'œuvre d'un autre.
Et pourtant, alors Emmanuel Mérieux, moi je vais vous dire, j'y allais un petit peu... Quand on a aimé un livre énormément, quand ce livre vous a frappé et accompagné, c'est vrai qu'on va voir son adaptation avec une petite boule d'angoisse au ventre en se disant « ça ne peut pas être pareil ». Et dans ces 7 partitions pour 7 acteurs que vous avez donné et qu'on peut voir en ce moment au Bouffe du Nord, j'ai reconnu dès les premiers mots des témoignages qui n'étaient pas les mêmes. C'est ça qui est curieux. Anna, par exemple, la petite fille qui a grandi dans un goulag au fin fond de l'Union soviétique, j'ai su à son 3e mot que c'était elle qui allait parler. Et pourtant, alors ça, je peux dire, il a été réécrit, ce témoignage. C'est quand même... Est-ce que tout de suite, vous avez trouvé votre voix particulière au théâtre ou est-ce que ça a été finalement un travail assez épuisant et long?
C'est un travail épuisant et long, c'est un travail. C'est un labeur. Donc c'est pas instantané, bien sûr que non. C'est la plus grosse part de mon travail avec le geste de casting, de distribution, choisir l'être humain qui va pouvoir dire ces mots. Là, vous faites référence à Anna, qui est incroyablement interprétée par Evelyne.
Elle est formidable.
Mais c'est le cas des 7 acteurs qui m'entourent. Ouais. Instantanément, vous, et c'est mon objectif, dès les premiers mots, vous pensez que la personne qui vous raconte cette histoire est la personne qui l'a vécue. C'est plus des acteurs. C'est mon objectif, c'est que ce soit parfaitement crédible et vraisemblable.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette forme-là de théâtre, Emmanuel Mérieux?
Alors, pour une raison toute simple, mais qui m'appartient, qui n'est que personnelle, c'est que je crois pas en la convention théâtrale dite du quatrième mur. C'est-à-dire que comme moi, je suis au théâtre et que je vois des acteurs faire semblant de croire qu'ils sont seuls en scène, dialoguer, faire semblant de croire qu'il n'y a pas un public pour les observer, je n'atteins pas l'émotion du théâtre. Je n'ai jamais eu accès à ça, à ce langage-là. J'ai pas accès à ce langage-là. La grande force du théâtre par rapport au cinéma, par exemple, ou à la littérature, c'est quoi finalement? C'est que c'est le seul art du récit. Il y en a 3, voilà, cinéma, théâtre, littérature, où le personnage est en chair et en os devant vous, parfois à 3 mètres de vous. Il respire le même air que vous. Vous pourriez presque le toucher. Il est dans le même endroit du monde au même moment. Autant qu'il vous parle, les yeux dans les yeux. Donc tout de suite, j'ai envie de faire sauter ce fameux quatrième mur qui nous sépare du spectateur et d'en faire des grands témoins. J'essaie d'accompagner mes acteurs au mieux en leur disant tout simplement parlez aux gens qui sont là pour vous écouter. Les yeux dans les yeux.
Mais au fond, Emmanuel Mérieux, c'est exactement le travail qu'a fait Svetlana Alexievitch pendant 40 ans. Elle est allée se mettre en face des gens, rentrer dans leur histoire. Dans son livre d'ailleurs, elle est présente, elle se met entre parenthèses. Et au fond, ce théâtre que vous faites, il nous le restitue. On va écouter ce qu'elle disait de cette expérience.
Toute ma vie, j'ai récolté ces souvenirs et je me rappelle de tout cela depuis mon enfance. Les personnes avec qui je vivais parlaient de cela. Comment ça se fait, se disait-elle, que Vassili a rapporté sur son voisin? Comment se fait-il que la jolie tante Olga, avec sa belle voix qui chantait magnifiquement, a rapporté sur son propre frère qui est mort dans les camps? Le mal? Le mal, c'est quelque chose qui m'a hypnotisé dès l'enfance, parce que j'ai grandi au milieu de ce mal. Et ce qui m'étonnait, ce qui m'a toujours étonné, c'est que je suis entourée de personnes magnifiques, merveilleuses, qui ont vécu, qui ont supporté des souffrances immenses. Et en parlant d'elles-mêmes, ces personnes disent, voilà, nous, on est un peuple comme du bois. Vous pouvez fabriquer avec nous un bâton ou une icône. Pourquoi ça? Pourquoi ce peuple ne souhaite pas être responsable de sa propre vie? Mon père est mort récemment. Il était communiste jusqu'à la fin de sa vie. Il m'a fait promettre que sa carte du parti serait enterrée avec lui.
Elle était à ce même micro, Svetlana Alexievitch, c'était en mai 2015, dans l'humeur vagabonde, et ce qu'elle dit, au fond, c'est aussi sans doute pour ça, Emmanuel Merieux, que ces histoires que vous mettez en scène nous touchent à ce point, c'est qu'au fond, ce travail, La fin de l'homme rouge, ça raconte l'histoire de générations dont nous faisons encore partie, c'est-à-dire... même si on en connaissait les horreurs, les limites, les absurdités et les épouvantables drames entraînés par cet empire soviétique, la chute de l'Union soviétique a été au fond la fin de l'utopie dans laquelle des générations vivaient depuis des dizaines d'années, y compris la nôtre, puisque nous en sommes les héritiers. Et j'imagine que pour vous aussi, c'est une histoire intime au fond.
C'est une histoire profondément intime. Moi, j'ai 43 ans. J'ai grandi. J'ai été élevé dans cette utopie. Voilà, ce monde-là est en train de disparaître. C'est récent. En fait, c'est assez récent. Moi, j'ai été élevé dans l'idée, comme le dit un des personnages de Svetlana, que l'argent c'est le mal, c'est le rêve qu'il faut aimer. Il y a eu depuis une dizaine d'années, et ça s'accélère avec notre président, une inversion absolue de ces valeurs. Inversion absolue de ces valeurs. On vit, on le sait, et j'enfonce des portes ouvertes, mais je vais les enfoncer. On vit dans une société qui attise et se récompense et sanctifie la cupidité humaine, l'indifférence à la souffrance des autres et le mépris de la pauvreté.
Et du coup, le texte de Svetlana Alexievitch, il est très troublant parce qu'au fond, il montre la destruction sur les vies humaines que cause la perte de l'utopie. C'est-à-dire que si le communisme est vaincu, a échoué, c'est donc que le libéralisme a gagné et qu'il est là comme étant la seule idéologie à laquelle on nous demande d'adhérer. Au fond, dans les personnages de Svetlana Alexievitch, il y a pour les plus jeunes l'adaptation immédiate au capitalisme échevelé, et pour les plus anciens, l'impossibilité de basculer dans ce nouveau monde.
Absolument. André Wims, qui est en plus d'être un immense acteur, sans doute un des plus grands, est un immense intellectuel, dit cette phrase que je trouve magnifique. Il dit « On ne peut pas vivre sans un idéal plus grand que soi-même ». Voilà, quel que soit cet idéal, c'est impossible de croire qu'on peut vivre sans un idéal plus grand que soi-même. J'ai été élevé là-dedans. Là, Svetlana, on raconte des gens qui sont orphelins, totalement orphelins d'une utopie, à laquelle ils ont tout sacrifié, bien sûr. Mais je crois profondément ça. On ne peut pas vivre sans un idéal plus grand que soi-même. Et une Mercedes n'est pas un idéal. Une Rolex n'est pas un idéal. L'enrichissement personnel n'est pas un idéal. La glorification de soi-même, l'autopréservation, ce n'est pas un mode de vie raisonnable. Et on ne peut pas faire société avec des individus qui n'ont pas un idéal plus grand qu'eux-mêmes. C'est simplement stupide de croire ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible de vivre dans une société où chaque homme se prend pour un empereur et impose sa propre loi. C'est impossible. Donc, vivre sans idéal et vivre sans utopie, c'est pour un être humain, je crois, profondément impossible. Et c'est l'impasse du libéralisme.
Гости во дворе, и долго колокол гудел в той церкви на горе, от алтаря из-под венца. Видна дорога в два конца. Я посылаю взгляд свой вдаль и не вернуть гонца. кованый колокол гудит, жених мой на меня глядит, и столько свеч для нас двоих.
Sur France Inter.
Dans ma famille, le plus important, c'était le travail intellectuel, les livres. On était des intellectuels soviétiques. Pour nous, on pouvait posséder que deux manteaux dans sa vie, mais on pouvait pas vivre sans Gorki. Les livres, ça remplaçait la vie. C'était notre univers. Et tout petit, je lui apprenais par cœur des poèmes sur les héros et sur la guerre. Parce que je voulais qu'il devienne fort et courageux. Sur la mort, aligne-toi, poète et pro-chevalier. Toujours la mort, le sacrifice. J'ai été élevée comme ça, et j'ai élevé Igor comme ça. Se sacrifier pour l'histoire, le culte de la révolution. Ça nous paraissait normal à l'époque. On vivait dans l'absolu, on parlait pas de la vie. On célébrait nos martyrs, nos héros.
C'est Anouk Grimbert, magnifique, qui ouvre votre spectacle, Emmanuelle Mérieux, La fin de l'homme rouge. Elle interprète la mère d'un jeune garçon, Igor, qui s'est suicidé un an après la chute de l'Union soviétique, au moment où le McDo ouvrait sur la place Rouge, au moment où tout s'effondrait. Un gosse de 14 ans, élevé, comme dit sa mère, dans le culte des héros et de la mort et du sacrifice suprême, et qui n'a pas su vivre après la chute de ce monde dans lequel il avait été éduqué et instruit. Dans ce livre, comme dans votre spectacle, c'est cette impossibilité à vivre, au fond, qu'exprime la plupart des personnages que vous avez portés à la scène, sauf ceux qui refuse et qui continue à réclamer le retour à cette grande utopie rouge.
Absolument, il y a pour moi deux personnages qui sont sauvés par leur soif d'idéal. Celui qui est joué par André Wims et celui qui est joué par Maud Wieler, qui est un autre idéal, qui est une femme passionnément amoureuse d'un homme qui mourra du cancer des Tchernobyliens, mais qui ça les maintient en vie. L'idéal, ça vous maintient en vie.
Et pourtant, il n'y a absolument aucun espoir. Aucun espoir. Ce sont des gens qui peuvent vivre à cause des idées qu'ils ont eues avant d'idéal, mais ils savent bien que c'est fini, au fond. Ils vivent déjà dans leur mort. Vous ne croyez pas ?
Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Pour moi, l'espoir réside... J'écoutais la parole de Zvetana qui... Enfin, on mesure toute la puissance de sa pensée et de ses émotions. C'est vraiment une femme exceptionnelle, extraordinaire. Elle dit à quel point tous les gens qu'elle rencontrait sont magnifiques. C'est moi, ma conviction profonde, même si je raconte des drames humains qui peuvent être poignants, qui peuvent être douloureux, qui peuvent être violents, sur le plateau, vous avez à voir que des êtres humains que je trouve magnifiques.
Parce qu'ils ont de la force, quand même.
Ils ont de la force, ouais. ils ont cet absolu. Ils sont dans la compassion, dans l'empathie, ils sont ouverts aux autres. Il y a rien de... Moi, ce qui peut me désespérer parfois, c'est la comédie, parce que le genre impose une satire. Donc, on ne voit que des êtres humains qui sont laids. Ce qui me désespère profondément, c'est quand on me montre un être humain qui est laid. Là, la vérité, c'est que tous ces êtres humains sont sublimes. Ils sont sublimes parfois dans leur douleur, dans leur soif d'absolu. Mais ils sont tous magnifiques. Ils ont tous une capacité de résistance à la vie extraordinaire. Et si, ça les tient en vie. Ça les maintient en vie. L'absolu vous maintient en vie. C'est aussi simple que ça. L'espoir, pour moi, réside dans cette conviction humaniste, tout simplement, que les êtres humains sont magnifiques. Et cette conviction, c'est vrai, est dévorée quotidiennement pour quelqu'un comme moi et pour beaucoup d'autres, je pense, par une société profondément libérale qui consacre son temps et son argent à enlaidir l'être humain, mais à l'enlaidir à travers les publicités, à travers on dénonce la propagande communiste, mais on peut dénoncer la propagande libérale à tous les arrêts de bus, où on enlaidit les êtres humains, on enlaidit l'espèce humaine. Pour moi, le vrai désespoir, il est là.
D'ailleurs, dans le livre de Svetlana Alexievitch, il y a quelque chose qui est très frappant tout de suite, c'est le fossé. Le fossé, c'est même pas un fossé, c'est le précipice absolu. Les deux planètes qui s'éloignent entre ceux qui ont vécu avant la chute du communisme et les gamins qui, eux, du coup, sont tombés tout de suite, les deux pieds joints, dans le capitalisme le plus échevelé. On va d'ailleurs écouter, juste après le témoignage de la mère d'Igor, interprété par Anouk Grimbert, le témoignage d'un ami d'Igor, qui était en classe avec lui au moment de la chute du communisme, et qui raconte comment, pour lui, s'est adapté très rapidement.
Je me souviens très bien du premier supermarché que j'ai vu. Des centaines d'emballages différents, c'était dingue. Des jeans, des manteaux fourrés, les nouveaux magasins, les restaurants, c'était comme des décors d'un autre monde. Le premier McDo, place Pouchkine. Les kilomètres de queue devant les reportages à la télé. Des gens, des adultes, des gens cultivés, qui gardaient les boîtes en carton et les serviettes en papier comme des objets sacrés. Ils les collectionnaient et les explosaient chez eux sur des étagères, dans des vitrines. Après son premier voyage à l'étranger, je me souviens, Vladim m'a dit « La liberté, ça sent une bonne odeur de saucisse bien grasse. » C'est notre amitié qui a disparu en premier après la chute, on n'avait plus le temps. Tout le monde voulait se faire du fric. La découverte de l'argent, c'est plus puissant qu'une explosion atomique. Ma première affaire, mon premier business, c'était au lycée. Je me suis mis à vendre des jeans délavés. À l'époque de mon père, tu prenais 3 piges pour ça. Faire du commerce, c'était un crime. Quand je rentrais des cours, papa me courait après avec son ceinturon autour de la table de la cuisine en gueulant « Espèce de sale spéculateur !»
Emmanuel Mérieux, il y a une remarque que Svetlana Alexievitch faisait quand elle était en France pour sa tournée, au moment de la sortie de son livre en 2014. Elle disait, mais vous vous rendez pas compte, vous pouvez critiquer le capitalisme parce qu'il est vieux chez vous et que on a réussi plus ou moins à s'organiser un peu pour lutter contre. Mais chez nous, il est tout jeune, tout frais, il a des crocs à serrer et les hommes savent dorénavant qu'on peut tout leur prendre pour tout vendre, y compris leurs organes, leur peau. C'est comme ça. Et on voit ces gamins qui, même dans leur façon de s'exprimer, sont devenus des cyniques absolus à un âge encore assez tendre.
C'est la fin du spectacle. J'ai choisi de finir le spectacle par ces mots-là. Elle nous dit, c'est Catherine Yégel,
la voix de Svetlana Alexievitch.
Qui est une actrice évidemment magnifique, et qui nous dit, hier, une femme a reçu le cadavre de son fils, sans ses organes internes. Maintenant, chez nous, c'est comme chez vous, on peut vendre absolument tout ce qu'un homme possède, même ses organes internes, même sa peau, on la vend. Voilà, c'est effectivement, le projet d'une société totalement libérale. Tout ce qu'un homme possède peut être vendu. Voilà, c'est ce qu'on nous propose. Et effectivement, elle a cette phrase, on a des crocs tout jeunes, tout frais.
Et d'ailleurs, vous avez repris dans le spectacle, dans le témoignage d'un ancien communiste, enfin qui est toujours communiste, qui dit « Mais moi, mes petits-enfants me regardent comme un fou en disant « Mais tu croyais vraiment qu'on pouvait faire régner sur Terre une justice sociale et tu, c'est comme croire aux extraterrestres ?»
Absolument, et il a cette phrase aussi très belle, il y en a beaucoup. Hein. Il dit « Vous avez remplacé la dictature du prolétariat par la loi de la jungle, dévore les plus faibles, rampe devant les plus forts. »
Vous avez conscience quand même, Emmanuel Merieux, qu'en écoutant ces témoignages terribles, le public, qui est absolument dans un silence terrible, mais que ça ébranle les spectateurs qui sortent de là dans un état assez effrayant, quoi. Les gens sont un peu pâles quand ils sortent. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'entendre ça ?
Moi, mon travail, c'est d'abord de donner des émotions qui sont éclairées de sens. Pas des sensations comme devant un feu d'artifice, ça m'intéresse pas, de provoquer des sensations. C'est la différence entre l'émotion et la sensation. L'émotion, elle vient du sens qu'on donne aux choses. C'est aussi, j'espère, un théâtre de consolation. Je crois pas que les gens sortent désespérés de ce qu'ils ont vu. Encore une fois, parce que ce qu'ils voient d'abord, c'est des êtres humains sublimes et magnifiques. Qui se battent pour des justes causes, qui se battent, qui font la guerre avec la vie comme eux, et qui la font bien. Donc je crois que c'est aussi un moment de consolation. Ça passe par les larmes. Ce sont des drames et ça va jusqu'à la larme. J'espère parce que c'est... Je pense que c'est important. Je pense que c'est important de vivre ensemble ce moment-là et d'aller parfois jusqu'à la larme, jusqu'à offrir une larme. Mais je pense qu'il y a une forme de consolation qui vient de la chaleur humaine qui se dégage de tout ça. Elle vient profondément de Zoletana, parce que c'est une personne, je crois, qui aime profondément, qui rentre profondément en empathie avec la personne qu'elle écoute, de mes acteurs, qui sont extraordinaires, du travail qu'on fait avec mon équipe. On cherche la compassion. La compassion, elle est pas désolante. Je crois pas du tout. C'est une expérience de compassion que je propose aux spectateurs, mais qui, je crois, fait du bien. Voilà, fait du bien.
Alors, ce que Alexievitch note aussi, c'est que, et d'ailleurs ça ne s'applique pas forcément qu'aux ex-soviétiques, c'est que dans chaque être humain peuvent cohabiter le bien, le mal, la victime et le bourreau. Et d'ailleurs, vous avez conservé dans votre spectacle, Emmanuel Merieux, ces confrontations très troublantes entre les victimes d'hier et les bourreaux d'hier, entre les générations. On parlait en tout à l'heure de Dana, interprétée par Evelyne Didi, qui, à la fin de sa vie, retourne sur les traces de ces camps en Sibérie, où elle a grandi, petite fille, et où elle va se retrouver à prendre le thé et des gâteaux avec l'ancienne commandante du camp qui lui disait qu'elle avait un pouvoir de vie et de mort sur elle. Et puis, il y a une scène très, très frappante que vous avez reprise dans le spectacle. C'est l'histoire de ce jeune aviateur, donc très patriote, qui est parti s'engager pour faire la guerre en Afghanistan, qui pilote des avions et qui va épouser la fille d'un ancien bourreau des camps et qui va rompre son mariage en écoutant le récit de son ex-futur beau-père.
Ouais, tu sais, moi j'étais fier quand on m'a engagé dans les camps. Ouais, j'étais fier. Avec mon premier salaire, je suis allé m'acheter un beau costume. Il m'a raconté que pour leur premier jour, les nouvelles recrues faisaient que regarder. Ou alors, ils accompagnaient les condamnés. Il y en a, ils supportaient pas. Ils devenaient fous tout de suite. Ouais, c'est pas évident. Ils disaient, oh non, c'est pas évident. Faut bien s'entraîner, quoi. N'importe qui peut pas faire ça. Tu vois. Ouais, à la fin de la journée, j'avais la main qui pendouillait comme un vieux chiffon, tu vois. Le matin, on leur donnait un papier officiel avec écrit dessus, condamné à la mesure suprême de défense sociale. Et alors, ensuite, ils obligeaient la personne à se mettre à genoux et ils tiraient à bout portant avec leur revolver dans la tempe gauche, comme ça, là, près de l'oreille. Et ouais, et c'est pas évident, ils disaient, non, c'est pas évident, parce que si le type, il est pas tué sur le coup, tu comprends? Si le type, il est pas tué sur le coup, il se met à couiner, il s'est à couiner comme un porc, tu comprends? Ouais, à la fin de la journée, je te l'ai dit, mais j'avais la main qui pendouillait comme un vieux chiffon, c'est surtout l'index qui dégoûte, tu vois. On leur fixait des quotas, c'est-à-dire un nombre d'ennemis du peuple à abattre par jour, mais il m'a dit qu'au début, ils n'y arrivaient pas. C'est-à-dire, physiquement, ils n'y arrivaient pas. Alors on leur donnait des lettres, et avec ces lettres venaient des médecins qui leur faisaient des massages deux fois par semaine, des massages de la main droite et de l'index droit. Pour l'index, c'était obligatoire.
C'est un témoignage. J'ai pris la partie la plus écoutable, parce que le témoignage de ce tueur du goulag est quand même une chose effrayante. Et d'ailleurs, la mise en scène le met en exergue, cette horreur. Je pense que pour les acteurs aussi, c'est un moment sur scène qui est assez éprouvant. On les voit d'ailleurs à la fin, ils sont littéralement vidés. Il y a aussi beaucoup l'emploi de la vidéo, les archives qui passent. C'est vraiment un spectacle très intéressant, Emmanuel Mérieux, mais je pense que c'est quelque chose qui est sûrement plus éprouvant pour vous tous que vos spectacles d'avant.
Éprouvant. Moi, je vais au contact des émotions brûlantes. Des êtres humains. C'est mon job, c'est mon métier, c'est comme ça que j'aime le faire et c'est comme ça que j'aime vivre. Je voulais être infirmier urgentiste, j'ai passé le concours de police pour ça. Mon métier, c'est de travailler sur des émotions brûlantes. Svetlana dit quelque chose de très beau, elle dit un être humain, il se révèle finalement dans deux expériences, celle de l'amour absolu et quand il s'approche de la mort. Mais quand on va au théâtre, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux que ça? Moi, quand je vais au théâtre, au cinéma, quand je lis un livre, je veux ce condensé d'humanité. Même s'il peut parfois brûler un peu. C'est ce que je demande. J'attends cette vérité. J'attends ces contradictions. C'est, en tout cas, en tant que spectateur, ce que j'espère toujours quand je vais au théâtre.
Effectivement, Emmanuel Mérieux, on est toujours heureux d'être secoué par le théâtre parce que c'est sa fonction principale. Et donc, j'encourage vivement tous les auditeurs de France, puisque vous allez partir en tournée. Alors, au Bouffe du Nord, alors je dis d'abord, il y a à 19h Les Naufragés de Patrick Declercq, qui commence, et puis à 21h La Fin de l'Homme Rouge. Donc, on peut voir les deux, on peut voir l'un, on peut voir l'autre. C'est au Bouffe du Nord jusqu'au mercredi 2 octobre. Et ensuite, il y a une tournée en France qui permettra à tout le monde dans toutes les régions d'aller voir ces spectacles qui se baladeront dans toute la France jusqu'en mai 2020. Merci à vous, Emmanuel
Mérieux. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.